Vous êtes sur RTL. RTL Midi, le 12h, Pascal Pro, Céline Landreau.
Bonjour à tous et bienvenue dans RTL Midi, 2h30 d'information et d'opinion jusqu'à 14h30 et l'information jusqu'à 13h. C'est avec vous, Céline Landreau. C'est un plaisir d'être avec vous à chaque jour et c'est un plaisir de saluer que les auditeurs nous suivent de plus en plus dans cette tranche 12h-14h30. Donc bravo à vous, Céline.
Et on les remercie infiniment. Bonjour Pascal, bonjour à tous. Deux chasseurs jugés pour la mort de Morgane, c'était il y a près de 2 ans, le jeune de 25 ans était tué chez lui alors qu'il coupait du bois. Une battue était organisée tout près. Le tireur a expliqué avoir confondu la victime avec un sanglier. La colère des blouses blanches après l'hôpital, c'est celle des généralistes qui éclate. Ils appellent à la grève les 1er et 2 décembre. À suivre aussi une immersion dans une centrale nucléaire. Sophie Jousselin, notre reporter, a passé la matinée dans celle du Bugey. Elle vous racontera à quoi ça ressemble une centrale de l'intérieur. Ce sera juste après le journal. Et puis le foot, premier entraînement qatari pour les Bleus cet après-midi.
RTL toujours plus proche de vous dans moins de 10 minutes. RTL Midi un jour chez vous en France.
Et aujourd'hui on part pour Strasbourg où la municipalité a décidé de distribuer des paniers de légumes bio aux femmes enceintes. À midi 20, RTL Midi, votre vie plongée dans votre quotidien. Aujourd'hui c'est le Duo Day. On va donc parler de l'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture LVT Midi. Double dose de bonheur. Aujourd'hui on vous parlera de Céline Dion et de Marcel Proust. La question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous diminué votre consommation de vin?
Voilà une bonne question, effectivement. Autant de sujets que vous pourrez, dont vous pourrez débattre à partir de 13h. Je vous précise que Daniel Guichard sera avec nous à partir de 13h45 dans les auditeurs. Nous aimons parfois avoir un invité qui échange avec les auditeurs. Ce sera le cas avec l'auteur de Mon Vieux.
Et avance. Non mais pardon, je m'attendais pas à cette chute là. Mais c'est vrai, c'est l'auteur de Mon Vieux. Vous avez tout à fait raison, Pascal. Un peu de jeunesse maintenant avec la météo et avec vous, Peggy Broch. Bonjour.
Bonjour Céline.
Je sais pas s'il va venir du coup. On l'attend à 13h45, mais comme on l'a bien annoncé en tout cas.
Bon, pour le temps aujourd'hui, c'est encore un temps instable, humide et venteux.
Merci Peggy. La météo complète à la fin du journal.
RTL Midi.
C'était il y a presque 2 ans, alors qu'il coupait du bois chez lui, Morgane, 25 ans, s'écroulait, tué par la balle d'un chasseur qui participait à une battue au sanglier. Un chasseur aujourd'hui devant le tribunal de Cahors, Patrick Tégéraud, tout comme l'organisateur de la battue, car il apparaît que toutes les consignes de sécurité n'ont pas été respectées, loin de là.
Oui, tout à fait. Le président n'a pas hésité à parler d'une chasse complètement délirante ce jour-là. Quelques heures avant le drame, le jeune chasseur, pourtant encadré par des anciens, est descendu de voiture pour tirer 4 fois sur un sanglier qui traversait un champ. Ça s'appelle la chasse en voiture. C'est interdit, rappelle le président. Vous aviez vu les routes, les maisons autour du champ? Qu'il n'y ait pas eu d'accident déjà à cet instant, c'est un miracle absolu. De plus, la chasse n'est pas autorisée sur cette parcelle, pas plus que sur celle où s'est produit le drame. Le président s'adresse alors au chef de battue. Quand vous postez le tireur, vous l'avez prévenu qu'il y avait une maison au-dessus? Non, non, répond le chef de battue. Celui qui a tiré le coup mortel, lui, est très affecté. Il raconte. J'ai vu monter une masse sombre, je me suis dit, c'est le sanglier que j'ai raté, j'ai visé, j'ai tiré. Évidemment, si j'avais vu une silhouette humaine, je n'aurais pas tiré. C'est l'évidence, dit le président. Mais quand on a une arme de guerre entre les mains, mortelle à 1 kilomètre, on n'a pas le droit de se tromper. Le chasseur sanglote. Je reconnais mon erreur. J'ai mal identifié ma cible. Je regrette pour son frère, sa famille. C'est gravé à vie dans ma tête. Il n'y a pas un jour qui passe sans que j'y pense. Je suis désolé.
Patrick Tégéraud à Cahors pour RTL.
RTL Midi.
Il n'y a pas qu'à l'hôpital que la colère gronde, chez les généralistes aussi, ils appellent à la grève les 1er et 2 décembre.
En surcharge de travail, horaire impossible, et alors que l'État envisage d'obliger les internes à aller travailler 1 an au moins dans les déserts médicaux, ce contre quoi ils manifestent d'ailleurs aujourd'hui, les généralistes s'alarment eux aussi de cette réponse qu'ils jugent inadaptée à Gatlandais.
Oui, car être obligé de s'installer dans un désert médical juste après son internat, c'est ce qu'a dû faire Nicolas. Pour bénéficier d'une bourse pendant ses études, il a signé un contrat avec l'État l'engageant à travailler 6 ans en zone sous-dense. Il a choisi Trégastel dans les Côtes d'Armor.
C'est des amplitudes horaires assez énormes. Je commence en général autour de 8h du matin et les dernières consultations se terminent vers 19-20h. Vous savez, j'ai des patients qui m'ont dit « Docteur, vous avez l'air fatigué, vous ne prenez pas assez de vacances, vous avez l'impression, on est inquiet pour vous ».
Épuisé après seulement quelques années d'exercice, ce généraliste soutient les étudiants en médecine en grève aujourd'hui pour dénoncer cette installation forcée.
Les lancer dans des déserts pour corriger les erreurs faites par l'État depuis des années. Et c'est pas aux étudiants en médecine de faire face à ça.
Mais pour le gouvernement, c'est une solution pour atténuer la désertification médicale qui va encore s'amplifier dans les prochaines années à cause des départs en retraite. Un tiers des généralistes ont aujourd'hui plus de 60 ans.
Agathe Landais pour RTL. L'Ukraine à nouveau pilonnée depuis ce matin par de nouvelles frappes aériennes russes, bombardements sur des sites stratégiques. Les coupures d'électricité se multiplient donc alors que les premières neiges ont commencé à tomber aujourd'hui sur le pays.
Direction le Qatar désormais où ça y est, les bleus sont au complet.
Randal Colomagny, appelé pour pallier le forfait de Christopher Nkoukou, a en effet rejoint le reste de l'équipe de France. Et désormais, Nicolas Georgerot, c'est la véritable préparation, et elle sera express, qui commence.
Oui, 5 petits jours seulement, 5 jours avant France-Australie, dans des conditions très différentes, surtout des dernières 48 heures à Clairefontaine. Il fait 33 degrés actuellement, taux d'humidité 55%, rien à voir donc avec la fraîcheur et la pluie de mardi. La montée en puissance doit se confirmer. Les séances collectives avec ballon à l'entraînement débutent tout à l'heure pour Varane, pour Benzema notamment, touchés à des degrés divers. C'est une étape supplémentaire à franchir alors qu'ils étaient ménagés depuis plusieurs jours et qu'ils se contentaient de soins ou bien de courir avec le préparateur physique. Les Bleus vont découvrir leur terrain d'entraînement. C'est celui du club d'Al Sadd, le club qatari le plus titré. L'équipe de France va faire partie des 3-4 sélections dans cette Coupe du Monde à avoir les meilleures installations. Ils effectueront toutes leurs séances dans cette enceinte, même les veilles de match, contrairement à d'habitude. C'est donc une nouveauté. Et ils auront des encouragements puisque 370 enfants du lycée français, du lycée Bonaparte de Doha, seront présents.
Nicolas qui est arrivé avec toute l'équipe d'RTL. Il fait chaud, paraît-il déjà. Il fait 35 degrés.
Oui, c'est ce que je vous disais, 33 degrés.
Alors, tout s'est bien passé.
L'humidité est un peu moins forte qu'hier.
Tout s'est bien passé, vous êtes bien installé, vous avez votre accréditation.
Ça s'est fait également. s'est fait depuis hier soir. Donc pour l'instant, tout est en ordre.
Et bien, vous allez être avec nous, bien sûr, pendant toute cette Coupe du Monde. Merci, Nicolas.
La météo, on vous retrouve comme promis Peggy Broche pour un après-midi ici du coup plutôt gris.
Ah oui, bien gris même souvent et agité, surtout donc entre la Vendée, la Gironde en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. On va retrouver des pluies marquées cet après-midi avec parfois un coup de tonnerre vers la Vendée dans l'après-midi et puis les averses orageuses seront un peu plus marquées en soirée vers la Bourgogne-Franche-Comté. On a également des averses sur le reste du pays mais elles sont plus éparses. Alors peut-être un peu moins éparses sur les bords de Manche avec encore des averses orageuses et du vent, mais le vent faiblit quand même. On a jusqu'à 70 km/h. Ce matin, on était à 100 km/h sur les bords de Manche et à l'intérieur des terres sur la moitié nord, du vent qui souffle entre 50 et 60 km/h. Il n'y a que près de la Méditerranée en fait où le temps est calme, ensoleillé. Et en Corse, on a encore quelques averses sur le relief uniquement sur l'ouest. Les températures, elles sont encore douces pour la saison, de 11 à Lille à 21 à Bastia, 20 à Nice, 19 à Marseille, 18 à Nîmes, 17 à Toulouse, 14 à Paris, 13 à Reims et 12 à Brest.
Merci Peggy.
RTL Midi, un jour chez vous.
De Brest à Strasbourg, de Lille à Marseille, chaque jour l'info au plus près de vous.
Et aujourd'hui, on part pour l'Alsace. Bonjour Yannick Collant.
Bonjour.
À Strasbourg, donc, où c'est une première en France, la ville a décidé de financer l'achat de paniers de légumes bio pendant toute la grossesse des femmes. Et ça pour les protéger, elles et leur futur bébé, des pesticides et des perturbateurs endocriniens.
Et oui, et j'ai assisté à la première distribution qui a eu lieu cette semaine. Dans le panier, les futures mamans ont donc trouvé...
Alors, il y a un chou-fleur, des poireaux, une salade et trois pommes.
Ça, c'est une bonne initiative. Ça va peut-être inciter beaucoup de familles justement à manger bio, à diversifier aussi leurs aliments. Donc, ça va permettre un petit peu de changer le mode de vie et manger un peu plus sain. Ce qui n'est pas plus mal, hein.
Un panier de légumes bio produit localement, offert chaque semaine pendant la grossesse, car les futures mamans et les bébés sont plus sensibles à l'exposition aux pesticides et aux perturbateurs endocriniens. Jeanne Barseguian, la maire de Strasbourg.
D'abord, il est important de protéger les futures mamans et les futurs enfants qui sont finalement les plus exposés aux perturbateurs endocriniens et à leurs conséquences. Quoi de plus concret que de permettre d'avoir de l'alimentation bio de qualité? Bien sûr, c'est un symbole fort, mais c'est aussi un levier très concret de changement.
Yannick, est-ce que ce dispositif est ouvert à tout le monde ?
Et oui, la ville a préparé un budget de 270 000 euros pour ces paniers de légumes offerts. Ça veut dire accompagner 800 femmes pendant 6 mois. Ce sont les médecins, les gynécologues, les sages-femmes qui pourront prescrire ce qu'on appelle une ordonnance verte qui permet d'en bénéficier. Et l'idée, c'est vraiment de sensibiliser tous les publics.
Bon, pour être un peu cash, puisque Pascal aime ça, Yannick, l'idée, c'est que le bio ne soit pas réservé aux bobos.
Exactement, hein. C'est une façon concrète finalement de lutter contre les inégalités pour le docteur Alexandre Fels à l'origine de ce dispositif.
C'est proposé à toutes les femmes du territoire, mais on a une attention particulière dans les quartiers pour les gens qui ont plus de besoins. Vous avez vu des femmes qui sans doute n'avaient jamais acheté d'éléments biologiques parce qu'elles n'avaient pas les moyens ou elles considéraient que c'était pas leur milieu, leur vie. Tout à l'heure, une personne a dit « moi d'abord je regardais le prix, quelle que soit la qualité du produit ».
Et effectivement, parmi les premières bénéficiaires, j'ai rencontré Soumeira, qui n'achetait jamais de produits bio et qui est encore un peu perdue face à ce panier de légumes. Elle n'a pas du tout l'habitude de cuisiner.
J'ai jamais acheté. J'ai jamais vu, jamais cuisiné ces légumes. Peut-être qu'un jour, j'apprendrai à les cuisiner.
Et le dispositif prévoit aussi du coup des ateliers de cuisine pour les futures mamans comme Soumeira qui auront encore besoin de quelques conseils supplémentaires.
Oui, parce que le chou-fleur, pour l'apprécier, il faut le cuisiner, c'est toujours pareil. Merci beaucoup Yannick Holland, donc à Strasbourg pour RTL.
Ça sent bon en plus le chou-fleur, comme chacun sait. Tout ce que vous avez voulu savoir sur la centrale nucléaire, dans une seconde avec Sophie Jousselin.
RTL, pour tout comprendre de l'actualité. Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi.
C'est un endroit inaccessible au commun des mortels, l'objet de nombreux fantasmes. Vous l'avez peut-être entendu ce matin. Sophie Jousselin a passé pour RTL sa matinée dans une centrale nucléaire. Bonjour Sophie.
Bonjour Céline, bonjour Pascal, bonjour à tous.
Vous étiez donc dans la centrale du Bugey, dans l'Ain. Assez rare, on le disait, d'avoir le droit d'entrer dans une centrale nucléaire. Racontez-nous d'abord, c'est comment à l'intérieur ?
Alors, ce qui frappe, c'est la grandeur du site. Hein. 100 hectares à Bugey, c'est plus de 10 terrains de foot. Ensuite, vous avez deux types de bâtiments. Des bâtiments tout à fait classiques. Hein. C'est là, par exemple, qu'il y a tout ce qui est administration ou encore la cantine. Bref, tout ce qui n'est pas lié directement aux réacteurs. Les réacteurs, ils sont à 4 à Bugey et ils sont dans ce qu'on appelle la zone nucléaire. Ce sont des sortes de gros blocos gris, plein de tuyaux et de couloirs où on stocke le combustible. Et puis, un peu à l'écart, sur le site, vous avez ces grosses tours réfrigérantes. Hein. Vous savez, on les voit souvent depuis l'autoroute avec un panache de fumée blanc qui n'est en réalité pas du tout de la fumée mais de la vapeur d'eau. Et sur le site du Puget, il y a 1500 personnes qui travaillent quotidiennement, mais c'est tellement immense qu'on ne s'en rend pas compte.
Avec une sécurité qu'on imagine très stricte.
Absolument, hein. On n'entre pas dans une centrale comme dans un moulin. Déjà moi, en tant que visiteuse, eh bien, j'ai tout le temps été accompagnée. Auparavant, j'avais fait parvenir mes papiers d'identité. À mon arrivée, j'ai eu un badge assorti d'un code secret. Et c'est la même chose pour les employés. Ils ont leur badge avec ce code secret. L'idée est que si on leur vole leur badge, eh bien, on ne puisse pas l'utiliser puisqu'on n'a pas le code avec. Et il faut badger souvent dans des grands tourniquets qu'on appelle des tripodes. Et ce badge est différent pour chaque employé. Il ne donne accès qu'aux zones où il travaille. Par exemple, un administratif ne peut pas entrer dans la zone nucléaire avec son badge.
Et vous êtes habillé en civil, si j'ose dire, ou vous êtes protégé à l'intérieur ?
Ah non, évidemment, on est protégé. Hein. Toute personne qui entre dans la zone nucléaire se change. On enlève ses vêtements de ville, on se met en sous-vêtements et ensuite on met une combinaison, des gants, des chaussettes, un casque. Comme ça, si un peu de poussière radioactive vous tombe dessus, eh bien, vous ne l'emportez pas à l'extérieur puisque vous vous rechangez avant de quitter la zone et vous passez sous un portique qui vous indique si oui ou non il y a des traces de radioactivité sur vous.
3, 2, 1... Merci beaucoup. Non contaminé.
Donc vous voyez, pour moi, tout s'est bien passé.
Bonne nouvelle, Sophie.
Voilà. Et puis,
mais ça, c'est vrai pour tous les employés, tous les jours, ils se changent.
Ah oui, oui, oui. Et même s'ils ressortent de la zone nucléaire pour les faire pipi, il faut qu'ils repassent tous ces contrôles. Voilà. Et puis, à la centrale, on contrôle aussi l'air extérieur grâce à des filtres. Hein. C'est Lucas Jouvin qui est responsable de qualité du laboratoire environnemental de la centrale qui me l'a expliqué.
Les stations de prélèvement fonctionnent 24 heures sur 24 et 365 jours par an. Et donc, à la manière un peu du facteur, nous venons quotidiennement au niveau de ces stations pour récupérer ce filtre qui va être ensuite analysé au laboratoire.
Sophie, on parle souvent des centrales qui ne fonctionnent pas en ce moment parce que celle du Bugey, on l'a dit, elle tourne, mais ce n'est pas le cas de toutes, hein, loin de là.
Absolument, il y a presque la moitié des réacteurs à l'arrêt en ce moment, à 25 sur 56. Alors ils sont à l'arrêt pour maintenance ou pour contrôle de phénomènes de corrosion hein, qui ont touché une partie du parc français. Mais d'après les informations d'EDF, il y aura 40 réacteurs en fonctionnement à la fin de ce mois, 45 à Noël. Ça représentera environ 80% du parc nucléaire et on devrait être presque à 100% en février.
Merci beaucoup Sophie Jousselin qui a donc passé pour nous la matinée dans une centrale nucléaire, ce qui n'est pas banal.
Dans un instant, RTL Midi, votre vie, c'est le duo day aujourd'hui, duo day, D-A-Y, l'occasion pour des personnes en situation de handicap de passer une journée dans une entreprise, de découvrir un métier. On en parle tout de suite avec Anne Firmine Mayala qui passe la journée avec nous et qui est dans ce studio.
Céline Landreau, Pascal Pro, RTL Midi jusqu'à 13h. RTL Midi, votre vie.
RTL Midi, votre vie, oui, car l'info, c'est aussi ce qui fait votre quotidien. Et aujourd'hui, c'est le duo des, D-A-Y, des comme jour, bien sûr, et duo comme deux.
Exactement. Et à l'occasion de la Semaine européenne pour l'emploi des personnes handicapées, les entreprises accueillent donc le temps d'une journée des personnes en situation de handicap pour leur permettre, avec un binôme, d'où le mot duo, de découvrir donc un métier, un domaine d'activité. Et ici à RTL, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Anne Firmine Mayala. Bonjour.
Bonjour, merci beaucoup.
Vous êtes journaliste, auteur notamment d'un podcast L'œil de Mopreso, M-O-P-R-E-Z-O. Il est disponible notamment sur YouTube et il est consacré à l'insertion socio-professionnelle et au développement personnel. Anne Firmine, on le sait, 80% des handicaps ne sont pas directement visibles. C'est votre cas.
C'est mon cas, effectivement.
On ne devine pas quand on vous croise. Est-ce que vous pouvez donc nous dire de quoi vous souffrez en fait?
Effectivement, Céline, je suis atteinte de céphalée de tension articulaire. C'est une maladie qui n'est pas encore vraiment maîtrisée, notamment au niveau de l'administration des traitements médicaux, puisqu'au niveau des douleurs que ça peut déployer sur moi, on a du mal à maîtriser un peu quand il y a la propagation. Donc c'est essentiellement lorsqu'il fait très froid que ça se déclenche.
Et ça se traduit comment? Ce sont des crises de douleur?
Alors, ce sont de très violents maux de tête, accompagnés de nausées, de fortes fièvres et une atrophie des membres. Donc, on est en état de mal-être et de douleur. Et on ne sait pas jusqu'où combien de temps l'état peut durer. C'est aussi ça qui est difficile, puisque, effectivement, en tant que personne handicapée, notre frein à l'employabilité, c'est notre handicap. Et quand on affronte, par exemple, pour ma part, là, j'affronte l'hiver qui va bientôt arriver, je ne sais pas trop.
Et le froid renforce vos crises, hein, c'est ça.
Mais vous avez dit très froid. C'est-à-dire, faut qu'il fasse 0 degré ou déjà, lorsqu'on est à 10 degrés...
Oui, à 10 degrés, ça y est.
Ah oui, donc c'est pas très froid, c'est quand même très... Ça peut être très handicapé, parce que 10 degrés...
C'est invalidant, effectivement.
Voilà, 10 degrés, c'est régulier. Quasiment, c'est même tout l'hiver, bien souvent. Alors, j'imagine que dans votre vie professionnelle, c'est un...
C'est un frein, effectivement. J'ai dû interrompre à plusieurs reprises ma vie professionnelle pour pouvoir me consacrer à ma santé. C'est d'autant plus compliqué puisque je suis mère de famille, mère de deux petits garçons. Du coup, on est quand même aussi confronté à la société en tant que femme, en tant que mère et en tant que femme noire. Donc effectivement, comme je ne laisse pas d'espace... pour que les gens voient cette partie vulnérable de moi, parfois j'ai cette sensation désagréable que du fait que l'handicap il soit invisible, les gens ils se disent on a affaire à une femme accomplie, mais ils voient pas que en fait c'est vrai que parfois il y a certaines choses ou certains cas de figure qui peuvent me mettre en situation de malaise et effectivement parfois c'est un peu compliqué pour moi d'exprimer ma maladie, parce que devant, j'ai des interlocuteurs qui ne comprennent pas. Ils me disent « Ah, t'es jolie, tu parais pas malade, t'es quand même bien portante. » Donc non, mais les lésions sont internes. Et c'est pour ça que j'essaye de donner une dimension à tout ça, parce que j'estime qu'on n'a pas une visibilité qui soit vraiment significative. Donc, en plus de l'œil de Mopreso, je suis en train de travailler sur un nouveau format qui s'appelle Les acteurs de demain et qui sera consacré aux porteurs d'initiatives, créateurs de projets, handicapés pour qu'on puisse avoir cette visibilité, qu'ils puissent montrer qu'au quotidien, c'est pas évident.
Il n'y a pas de traitement, hein, ou en tout cas, le traitement est inefficace.
C'est inefficace parce qu'il y a trop d'effets secondaires, notamment l'accoutumance. Et puis, alors, c'est vrai qu'avec le médecin généraliste, on est parti sur un protocole de cure thermale avec de l'eau soufrée pour que les actions d'hydromassage puissent soulager les douleurs.
Nathan Bocard, vous êtes journaliste, vous, à RTL, ici, et vous avez travaillé sur ce sujet. Les entreprises, aujourd'hui, elles doivent accueillir des travailleurs en situation de handicap. C'est la loi.
Oui, c'est la loi depuis 1991, exactement. En fait, concrètement, toutes les entreprises qui ont plus de 20 salariés doivent compter dans leur effectif 6% de travailleurs handicapés. Alors, il y a une petite marge de manœuvre pour les entreprises qui sont jeunes ou qui viennent d'atteindre ce seuil des 20 salariés. Elles ont 5 ans pour atteindre ce chiffre de 6%.
Et sinon, qu'est-ce qui se passe?
Si elles ne le font pas, elles doivent verser une contribution annuelle à l'AGFIP. L'AGFIP, c'est une association qui, en fait, va subventionner l'insertion des travailleurs handicapés. Ça va passer notamment par le fait d'investir dans du matériel adapté ou alors d'adapter les horaires des travailleurs handicapés. S'ils ne le font pas, donc ils ont cette contribution à verser. Alors, il faut le savoir, la majorité des entreprises n'atteignent pas ces 6%. Elles sont 34% d'entreprises assujetties à cette loi, voilà, à avoir ces 6%. Le reste, donc, verse cette cotisation annuelle.
Très concrètement, Anne Firmine, vous avez essuyé, vous, beaucoup de refus en cherchant du travail à cause de ce handicap ?
Pas forcément des refus, mais c'est vrai qu'après, une fois qu'on est confronté à l'état de maladie sur le terrain, sur le lieu de travail, on m'a mis des fins de contrat, des choses comme ça, parce que la maladie, pourtant, mon CV était estampillé RQTH.
Mais, RQTH, juste pour ceux qui ne connaissent pas ?
Oui, c'est la reconnaissance en qualité de travailleuse handicapée. Donc avec le logo de la GFI, de la MDPH et en partenariat avec la GFIP, bien sûr. Et donc effectivement, c'est pas évident parce que les employeurs parfois ont du mal à comprendre.
Ou parfois ils comprennent trop bien, finalement ils veulent pas s'ennuyer avec quelqu'un qui peut être en difficulté, disons-le aussi. Ils ne jouent pas forcément le jeu et ils ne sont pas à l'écoute et ils ne font pas ce qu'ils devraient faire.
C'est pour ça qu'effectivement, pardonnez-moi, c'est pour ça que j'attache vraiment beaucoup d'importance à mettre toutes ces choses-là en valeur et que je compte faire notamment des documentaires, des choses comme ça, des films, mais aussi il y a mon livre qui arrive et je vais discuter justement de tout ça. Et je vais expliquer un peu cette dimension quand on est mère dans cette société, quand on est handicapé, quand on est confronté aussi au travail. Voilà.
Merci.
Merci à vous.
Merci. Et bon courage.
Merci infiniment, Pascal.
Et je rappelle le nom de votre podcast, hein, L'œil de Mopreso, M-O-P-R-E-Z-O, c'est disponible sur YouTube. Merci beaucoup,
merci infiniment, Maya. Céline.
Et c'est un des thèmes, bien sûr, qui peut faire réagir nos auditeurs. Si vous êtes dans une situation comparable à celle d'Anne Firmine, si vous avez du mal à trouver du travail, si vous souffrez d'un handicap non visible également, c'est très intéressant comme sujet. Appelez-nous au 3210, à tout de suite.
Céline Landreau, Pascal Pro. RTL midi jusqu'à 13h. RTL, s'informer ensemble.
Bonjour à tous, si vous nous rejoignez, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à écouter cette tranche d'information entre 12h et 14h30. Merci donc de rester avec nous si vous êtes déjà à l'écoute de ce RTL midi, il est 12h30.
Midi. Le 12-30, Céline Landreau et Pascal Pro.
Et donc à 12h30, c'est un rendez-vous auquel vous êtes habitué depuis la fin août, la grande édition de la mi-journée avec vous, Céline.
Merci patron, le rêve de Christelle a été exaucé. Son patron s'était engagé à réaliser le rêve d'un de ses employés, une sorte de loterie pour elle. C'était devenir propriétaire, elle a gagné, elle aura donc bientôt sa maison. Mystère dans l'heure où les enquêteurs sont convaincus d'avoir arrêté un meurtrier, mais sans que la victime n'ait pu être identifié. Les lycées professionnels en grève. Aujourd'hui, ils protestent contre une réforme qui donnerait plus de place aux stages. Et puis le foot, à 5 jours de leur entrée dans la compétition. Premier entraînement en public cet après-midi pour les Bleus au Qatar. Juste avant 13h, votre rendez-vous culture à LVT Midi. Culture au sens large aujourd'hui, puisqu'on parlera à la fois de Céline Dion et de Marcel Proust. Les Français boivent moins de vin, 30% de moins même pour le vin rouge sur 10 ans. Comment expliquer une telle baisse? On en parle après le journal et c'est l'objet de la la question du jour sur notre site rtl.fr. Avez-vous, vous, diminué votre consommation de vin?
On en parlera évidemment avec les auditeurs de tous ces sujets. Je rajoute la polémique que nous aurons avec Christian Olivier, comme tous les jours vers 13h03. Emmanuel Macron a-t-il raison de dire qu'il ne faut pas politiser le sport? On verra si on peut être d'accord ou pas avec ce que nous dira Christian. Et puis on recevra Daniel Guichard vers 13h45.
La météo complète à la fin du journal, évidemment, comme chaque jour avec vous, Peggy Broche, mais déjà un indice.
Un temps automnal, gris, humide, avec du vent.
Merci Peggy, à tout à l'heure.
Jusqu'à 13h. RTL Midi.
Mais pour commencer, donc, ce rêve qui se réalise pour Christelle à Chalon-sur-Saône, cet employé du groupe de transport BMW avait participé à la loterie pour le moins originale organisée par son patron. Celui-ci s'était engagé à réaliser le rêve de l'un de ses 1100 employés. Bonjour Frédéric Perruche.
Bonjour.
Alors le rêve de Christelle, 58 ans, c'était de devenir enfin propriétaire de sa maison. Eh ben, c'est gagné Frédéric.
Exactement, et croyez-moi, elle a encore bien du mal à réaliser ce matin, Christelle, quelques heures après avoir appris de la bouche du grand patron que son rêve était exaucé.
Mais c'était un coup de massue, j'étais abasourdie, je ne m'y attendais absolument pas du tout. Il a fallu qu'on montre le papier et je ne réalisais pas, j'étais très très émue. Je suis encore émue aujourd'hui, c'est incroyable. Ça fait 20 ans que je suis ici, je m'investis et la récompense suprême, c'est... Enfin, je suis tirée au sort pour une maison incroyable. J'ai pas de mots. Je sais pas comment vous dire mieux que ça.
Christelle gagne donc sa maison. Voilà qui la réjouit, bien sûr, mais également Claire, sa chef de service qui occupe le bureau d'à côté.
Ravie pour elle. Bon, sur le moment, elle s'est décomposée, donc on a eu un peu peur qu'elle nous fasse un malaise. Finalement, non, c'est la joie qui a pris le dessus. On était très contente pour elle. C'est un rêve qu'elle a depuis très longtemps. Donc, c'est une bonne chose.
Elle vous en parlait de cette maison?
Oui, oui, oui. C'était pas forcément réalisable pour elle. Donc, ça tombe bien.
Elle est comment ce matin?
Sur un petit nuage, elle a du mal à redescendre.
Alors qu'elle se remette au boulot quand même.
Elle est toute dissipée.
Voilà, évidemment dissipée, on le saurait à moins. Mais Christelle n'a pas encore débuté sa recherche de maison dans la région de Chalon-sur-Saône.
Frédéric Perruche pour RTL, formidable.
Formidable, et je sais que Régis Ravana, c'est un auditeur attentif de ce 12h-14h30. Et je ne doute pas que le président d'RTL imagine cette solution pour les salariés de la Maison Rouge.
Ah bah, ce serait quoi votre rêve, Pascal?
Mon rêve, c'est de continuer.
Ça ne devrait pas être trop difficile à exaucer. Merci beaucoup Frédéric Perruche.
RTL Midi.
Au procès des découpeuses, la parole est aux accusées aujourd'hui.
Elles sont trois à être jugées aux assises de Seine-Maritime à Rouen. Deux pour avoir tué et découpé le compagnon de l'une d'entre elles. La troisième, et c'est elle qui vient de s'avancer à la barre, Anne Lehenaf, risque quant à elle un an de prison pour avoir tout su et rien dit.
Oui, Isabelle, 51 ans, est assise sur une chaise à roulettes. Elle est handicapée, elle souffre de fibromyalgie et ses souffrances physiques sont évidentes depuis 4 jours. Céline a d'abord été son esthéticienne, puis les deux femmes se sont rapprochées. Isabelle est même la marraine de son fils. Elle lui parle des violences de son compagnon, mais elle ne veut pas aller voir la police. « J'avais peur pour elle, dit Isabelle, peur que Slimane lui fasse du mal. » Isabelle n'a participé à rien, effectivement, mais la justice lui reproche son silence. Elle savait que Céline voulait tuer Slimane, elle connaissait la date, elle aurait dû donner l'alerte, empêcher le carnage, mais elle n'a rien fait. Un jour, elle m'a dit que ce serait lui ou elle, murmure Isabelle, mais je ne l'ai pas cru, si vous saviez comme je regrette. La voix secouée de larmes, le corps tremblant sous sa crinière blonde, Isabelle explique que ces 3 semaines de détention provisoire ont été un cauchemar, moral et physique. Son mari, interrogé un peu plus tôt, a parlé de l'état catastrophique de sa femme. Elle ne supporterait pas de retourner en prison.
Compte rendu d'audience signé Anne Lehenaf pour RTL. Deux chasseurs jugés aujourd'hui à Cahors pour la mort de Morgane. C'était il y a près de 2 ans. Ce jeune était tué chez lui alors qu'il coupait du bois. Une battue était organisée tout près. Alors le tireur a expliqué avoir confondu la victime avec un sanglier. L'organisateur de la battue est lui aussi jugé car celle-ci semble avoir été mal préparée.
Ce mystère à présent dans l'heure où les enquêteurs sont persuadés d'avoir arrêté un criminel mais sans avoir identifié la victime.
Un homme est en effet mis en examen depuis juin, soupçonné d'avoir renversé une cycliste le 9 mars dernier au nord d'Évreux, avant de l'achever à coups de pelle. C'est en tout cas ce qu'il a confié à son ex-femme. Des traces d'impact sur sa voiture accréditent son récit. Sauf qu'à ce jour, aucune victime n'a été identifiée. Pas de corps, pas de disparition signalée. Le colonel Thierry Jourdrin, patron de la section de recherche de Rouen, a donc décidé de lancer un appel à témoins.
Il peut s'agir d'une personne qui vivait seule,
Il peut s'agir également d'une personne qui était en transit sur le département. Il peut s'agir d'une personne qui avait une double résidence en Normandie et une résidence dans une autre région de France ou à l'étranger une autre partie de l'année, ce qui expliquerait que personne aujourd'hui ne s'inquiète de son absence et de sa disparition. D'autre part, et c'est le deuxième appel à témoins, concernant le véhicule, nous cherchons à le localiser à la fois dans le temps et dans l'espace, dans la mesure où ce véhicule est impliqué dans l'accident de la route avec la cycliste. Et il est également impliqué dans le transport et la dissimulation du corps de la victime. Donc on recherche aujourd'hui le témoignage d'une personne qui aura pu apercevoir ce véhicule sortant d'un chemin, sortant d'une zone boisée. Ce véhicule est quand même particulier, il s'agit d'une Audi A4 de couleur noire immatriculée en Pologne. Et ce témoignage-là peut faire basculer l'enquête et nous amener vers une zone de recherche plus resserrée et permettre ainsi de poursuivre les investigations sur la recherche du corps.
Un propos recueilli pour RTL par Thomas Proutou.
RTL Midi. Les lycées professionnels sont en grève aujourd'hui.
De nombreux établissements ont gardé porte close ce matin. Un mouvement contre une réforme qui prévoit d'allonger le temps passé en stage dans l'entreprise. Alors les lycées professionnels, on le rappelle, ce sont 630 000 élèves, un tiers des lycéens en France. Passer plus de temps en stage, pourquoi ça suscite un tel tollé, Marie Guerrier ?
Alors, ce qui est évoqué, c'est une augmentation de 50%. Aujourd'hui, on est à 22 semaines de stage sur les 3 années de lycée. Ça ferait une douzaine de semaines en plus. Évidemment, ça veut dire moins de temps passé en cours. Très mauvaise idée, selon Sigrid Gérardin du SNEP-FSU, le syndicat de l'enseignement professionnel public.
Les élèves que nous scolarisons sont majoritairement issus des milieux populaires. Ce sont des élèves qui cumulent des difficultés économiques, sociales, des difficultés scolaires. Et quand on questionne nos collègues, ils disent tous la même chose. On a besoin de plus de temps. Ils sont en train de nous empêcher de faire notre travail et pour nous, c'est inacceptable.
Des lycéens qui ont donc besoin d'être encadrés et pas sous-employés en stage, dit-elle. L'autre crainte, c'est que les entreprises soient à la manœuvre pour constituer la nouvelle carte des formations, une sorte de privatisation des bacs pro.
Mais à l'inverse, on pourrait penser que c'est bénéfique, Marie, pour être formée, de passer plus de temps en entreprise.
C'est l'argument d'Emmanuel Macron pour valoriser les formations, les ancrer davantage dans le monde professionnel. Et il veut que les stages soient rémunérés, une gratification qui serait assumée par l'État. Il veut aussi proposer aux lycéens des formations au plus près des besoins des entreprises, des territoires et des enjeux actuels, écologiques, numériques, le grand âge, la réindustrialisation. Principaux objectifs, moins de décrochage et un meilleur taux d'insertion dans l'emploi.
Et concrètement, ce serait dès la rentrée prochaine, cette réforme ?
À partir de la rentrée prochaine, et puis elle se mettra en place progressivement sur le quinquennat, dit la ministre en charge de l'enseignement professionnel, Carole Grandjean. Elle a lancé une concertation, 4 groupes de travail qui rendront des conclusions en janvier-février, et la réforme sera finalisée d'ici à l'été prochain.
Marie Guerrier, spécialiste éducation ici à RTL. L'accord céréalier permettant l'exportation de céréales ukrainiennes depuis les ports d'Ukraine a été reconduit pour les 4 mois d'hiver, ce qui rassure évidemment sur une possible crise alimentaire mondiale.
Après Bali, Emmanuel Macron est à Bangkok, en Thaïlande.
Le président français va participer à l'APEC, grand forum économique qui rassemble tous les pays d'Asie du Sud-Est. L'occasion pour le président français de défendre la présence de la France dans l'Indo-Pacifique, zone qui lui est chère depuis son arrivée à l'Élysée, et d'effacer aussi, Bénédicte Tassard, ce couac qui avait fait beaucoup de bruit il y a un an, le camouflet des sous-marins nucléaires que l'Australie n'a finalement pas acheté.
Oui, parce que l'Indo-Pacifique, c'est énorme. C'est considéré comme le nouveau centre du monde. En 2030, 60% de la population et de la richesse mondiale se trouveront ici, dans ce groupe de 21 pays qui va de la Chine au Canada, en passant par le Chili, la Corée du Sud ou encore la Malaisie. Et la France a sa carte à jouer, elle qui possède 7 territoires avec plus d'1,5 million de Français sur cette zone. Et non, la France n'a pas encore dit son dernier mot sur la vente de sous-marins à l'Australie, comme l'a confié ce matin le président à Bangkok.
La stratégie que nous avions avec l'Australie était une stratégie qui s'inscrit complètement dans cette logique indo-pacifique, c'est-à-dire celle d'une liberté de la souveraineté. Nous aidions et nous accompagnions l'Australie à construire une sous-marinade en propre. Elle est connue, elle reste sur la table.
On ne parle plus ici de sous-marins nucléaires, mais à propulsion conventionnelle. Présence militaire, enfin, 7000 soldats français seulement en Indo-Pacifique, mais des exercices conjoints avec le Japon, l'Inde et des patrouilles en mer de Chine.
Bénédicte Tassara en Thaïlande pour RTL.
Emmanuel Macron qui estime estime que c'est jouable. Les Bleus peuvent conserver leur titre de champion du monde au Qatar.
Et ça, malgré leur déboire, cette cascade de forfaits qui s'est abattue sur le groupe de Didier Deschamps. L'équipe de France a passé sa première nuit au Qatar et s'entraînera cet après-midi en public pour la plus grande joie de Nina, lycéenne expatriée à Doha, et qui va assister à la séance.
On a l'opportunité d'aller voir le premier entraînement de l'équipe de France avec notre lycée. Il y a eu 270 élèves qui ont été sélectionnés pour aller voir l'équipe de France. Nous, au Qatar, on a souvent l'habitude de voir les mêmes nationalités. On voit souvent des Asiatiques. Donc, de voir énormément d'Européens, d'Américains, ça nous change énormément. Et encore, c'est ça, c'est que personne n'est arrivé. Et ça commence à arriver et ça fait un énorme changement. On n'a pas l'habitude de marcher dans la rue et d'entendre des Français. Ça fait chaud au cœur, en quelque sorte, de voir que même notre pays vient ici. Mon sentiment patriotique s'est réveillé en voyant tous ces Français.
Témoignage recueilli par Hugo Hamelin au Qatar pour RTL. Mauvaise nouvelle pour un autre Français, Antoine Dupont. On parle rugby cette fois. Le joueur qui a été exclu face à l'Afrique du Sud samedi dernier écope de 4 semaines de suspension. Il va donc manquer le prochain match des Bleus face au Japon dimanche, mais aussi 3 matchs en club avec son club, justement, le Stade Toulousain. C'était pas très clair. Bon, bref,
si,
il prend 4 semaines. Quoi.
C'était très clair, mais surtout, je trouve que c'est une... 4
c'est
matchs.
Vert.
Oui, c'est beaucoup, 4 matchs. Quand
4,
même,
4 semaines. 4 oui. semaines. La météo, avec vous, Peggy Broche. Vous nous l'avez dit, c'est agité.
Exactement, on a encore des averses marquées cet après-midi, Céline, entre le nord de la Nouvelle-Aquitaine en allant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Ailleurs, c'est ce qu'on appelle un ciel de traîne, alternance de nuages, d'éclaircies et d'averses avec encore beaucoup de vent. Il n'y a que près de la Méditerranée où le soleil résiste. Tout ça sous des températures encore douces de 11 à 15 au nord et 14 à 21 au sud.
Merci Peggy.
On va parler de la baisse de consommation du vin rouge, je précise. C'est pas de l'alcool, hein, parce que les jeunes parfois boivent beaucoup d'alcool, mais la baisse du vin rouge. Et ça nous intéresse. À tout de suite.
Votre avis compte.
Venez l'exprimer sur RTL au 3210.
50 centimes la minute.
RTL Midi.
Pascal Praud et Céline Landreau.
Brouilly, Chablis, Bourgogne. Grand château du Bordelais.
Le groupe Chanson Plus Bifluoré qui célèbre en chanson donc les vins de France. Alors on dit que le bon vin s'améliore avec les années, sauf qu'année après année, les Français, eux, semblent s'en détourner. La consommation de vin a baissé de plus de 30%, notamment pour le vin rouge. Bonjour Bernard Farge.
Bonjour.
Vous êtes président du Comité national des interprofessions des vins à appellation d'origine et à indication géographique. On dit moins 30% pour le vin rouge, c'est aussi moins 6% pour les ventes de vin. Comment on explique cette baisse de consommation et de rouge particulièrement ?
Alors cette baisse, elle s'inscrit dans le temps. Les chiffres que vous avez donnés à l'instant sont des chiffres depuis 10 ans, moins 30% sur les rouges depuis 10 ans, donc vous voyez c'est très important. Et si on est sur une période beaucoup plus longue, de 60 ans, c'est encore plus important. Mais on voit bien que cette baisse depuis 10 ans, elle a plusieurs raisons, elle est multifactorielle, c'est avant tout des changements de mode de consommation, des changements de mode de vie. Nous prenons des repas moins souvent accompagnés, ce sont des repas plus seuls. Il y a aussi des davantage de personnes et de foyers monoparentaux. Il y a aussi, surtout, ce que l'on constate, une rupture de la transmission de ce qu'est le produit de vin, ce qu'est notre produit, ce qu'est notre culture vin, qui était autrefois presque automatique, de génération en génération. Nous voyons consommer du vin en famille, à table, et de plus en plus, des familles ne boivent pas de vin, et donc des nouvelles générations ne voient pas cette consommation de produits. Donc nous devons nous adresser différemment à ces consommateurs qu'il faut aller chercher dorénavant.
Mais je vous écoute, mais j'imaginais pas que vous répondiez cela. Moi, j'ai le sentiment que depuis 30 ans, il y a deux choses qui font qu'on boit pas de moins de vin. D'abord, une sécurité routière qui est quand même aujourd'hui plus qui nous influence davantage dans notre consommation de vin, c'est-à-dire qu'on ne peut plus boire sans être contrôlé, disons-le, et c'est sans doute une bonne chose. Et puis la deuxième chose, c'est que on fait davantage attention à soi, à son corps, à ce qu'on boit, à ce qu'on mange, et de ce fait, le vin, c'est pas forcément une bonne chose toujours pour la santé.
Vous avez raison sur le plan de la sécurité routière et de la baisse de consommation liée au durcissement des règles qu'il y a eu, notamment plutôt au début des années 2000. Hein, et ensuite, ça ne se dément pas. Ensuite, sur les aspects santé, c'est une perception en effet des consommateurs qui ont l'impression d'être en meilleure santé s'ils boivent moins. Mais déjà, les Français boivent peu, puisque les Français boivent de manière très modérée. 90% des Français ne boivent pas de vin tous les jours et deux verres par jour, c'est presque la règle aujourd'hui. Donc c'est très peu, c'est les repères de consommation
mondiaux. Oui, mais c'est justement sans doute bien deux verres par jour. C'est très peu. En fait, c'est sans doute très bon pour la santé. Peut-être qu'au-delà, c'est moins bon pour la santé.
Au-delà, nous savons que, évidemment, largement au-delà, et les excès n'ont jamais été ce qui a été le cœur de nos actions de communication pour le vin. Il n'est pas question de boire de vin en excès.
Non,
il est question de boire du vin.
Vous n'êtes pas le promoteur de l'ivresse. On l'a bien compris.
Non, pas du tout.
Petite question, Bernard.
Le vin se partage et c'est un facteur de plaisir.
Oui, mais justement, j'entends rien. Mais par exemple, le midi à déjeuner, plus personne ne boit de vin aujourd'hui. Quasiment plus personne. Il y a 30 ans, quand j'ai commencé à travailler, je le racontais à l'instant, tous les professionnels autour de moi buvaient 3 ou 4 verres de vin à table, à déjeuner.
Oui, mais nous le constatons, nous tous, en tant que citoyens, bien sûr, évidemment, en tant qu'acteurs du vin, les viticulteurs ou négociants, nous le constatons, mais évidemment, c'est un fait qui est très visible, qui est visible aussi le soir. Hein.
Et pourquoi le rouge est plus abandonné que les autres ?
Pardon ?
Pourquoi le vin rouge est davantage abandonné que les autres ?
Probablement parce que ce produit est consommé davantage avec la viande rouge, beaucoup plus au repas, beaucoup moins sur des moments décalés de consommation que peuvent être les apéros ou les dégustations avec des planches. C'est parfois des produits qui sont un peu complexes, hein, en termes de d'approche. Et là, je reviens sur la rupture de transmission. Il faut être peut-être un peu plus connaisseur, et les consommateurs ont l'impression qu'il faut être plus connaisseur sur du rouge que sur du blanc ou du rosé. Donc nous avons un travail à mener là-dessus, sur une partie de simplification.
Eh bien, merci beaucoup monsieur Bernard Farge, et je ne doute pas non plus que les auditeurs puissent réagir sur ce sujet. Bernard Lehu nous a rejoint. Je ne sais pas si on parle de vin rouge chez Marcel Proust.
Oui,
dans la recherche.
On parle de tout, quasiment.
Est-ce qu'on parle du vin? Il faudrait lire les 1500 pages de la recherche. Il est 12h50.
Vous avez 2 minutes, Bernard, pour nous répondre.
Jusqu'à 13h, RTL Midi. Pascal Pro, Céline Landreau. RTL. Laissez-vous tenter, midi.
La culture se met à table tous les jours dans RTL Midi. Aujourd'hui, un grand écart, puisqu'on va nous parler dans un instant de Marcel Proust avec Bernard Lehu, mais aussi de Céline Dion avec vous, Steven Bellery. Bonjour.
Bonjour à tous.
Et on commence avec vous, Steven, puisque vous nous avez dévoilé ce matin une archive inédite de Céline.
Oui, une chanson de 1995, extraite de l'album 2, réinventée, nouvel arrangement et nouvelle prise de voix alternative. Céline Dion, encore trop affectée par ses spasmes musculaires, n'a pas pu enregistrer de reprise inédite pour le projet L'Héritage Goldman. Le volume 2 sort le 2 décembre, mais RTL vous fait déjà découvrir ce document. Cette archive lance le grand retour de Céline Dion, reprise de sa tournée le 24 février à Prague. L'entourage de la star nous a confirmé que le calendrier était maintenu à ce jour. Elle doit chanter le 13 juillet au Vieille Charrue, 6 Défense Arena en septembre. Céline Dion réfléchit aussi à la suite, un prochain album en français et dans les cartons. Selon nos informations, ses collaborateurs habituels ont été contactés et se sont mis au travail.
Merci Steven.
Mais on peut acheter les places ou...
Pour la tournée, cherchez pas, tout est complet.
Les vieilles
charrues, tout est complet, ça a été rempli en 7 minutes les charrues. Il y a 3 ans de cela déjà.
Vous pouvez nous en avoir ?
Vous laissez gérer ça en antenne, parce qu'on va parler.
Steven est incorruptible. On peut faire gagner des places aux auditeurs.
Plus accessible peut-être, lire Proust.
Grand écart, on l'a promis. Parlons littérature. Demain, on commémorera Il fut notre jeune homme, les 100 ans de la mort de Marcel Proust, l'auteur de La recherche du temps perdu, considéré par beaucoup comme le chef-d'œuvre absolu de la littérature française, par d'autres comme l'œuvre d'un écrivain difficile, intimidant, aux phrases interminables. Aidez-nous à nous faire une opinion.
Et on va peut-être commencer, Bernard, par rappeler en quoi c'est une œuvre si particulière.
Eh bien, parce qu'elle comporte 7 volumes qui en font, et 3000 à 3500 pages, hein, à peu près, selon les éditions, qui en font le plus long roman de l'histoire littéraire moderne. Il est inscrit d'ailleurs au Guinness des records, hein, il y figure, et avec la plus célèbre des premières phrases, « Longtemps, je me suis couché de bonne heure », Proust en a commencé l'écriture en 1906, les derniers volumes ne seront publiés qu'après sa mort, en 1922, une cathédrale de mots qui fascine et bien au-delà de nos frontières. Savez-vous qu'il existe des sociétés de lecteurs de Proust partout dans le monde, quasiment?
Et preuve de cette particularité, c'est que même si on n'a pas lu Proust, on a tous entendu parler d'un des passages du livre, celui de la Madeleine.
Mais oui, alors cette Madeleine trempée dans une tasse de thé réveille les souvenirs d'enfance du narrateur. Proust est le premier à décrire, hein, ce qu'on a tous éprouvé un jour, ce phénomène de la mémoire involontaire quand une sensation nous renvoie à un épisode de notre passé. Une page longtemps travaillée par l'écrivain, comme on peut le voir sur ses manuscrits en ce moment à la Bibliothèque nationale de France, Guillaume Nau, commissaire de l'exposition.
Effectivement, on le voit ici, c'est un morceau de pain rassis que le narrateur trempe dans une tasse de thé bouillant. Très vite, Marcel Proust corrige ce pain rassis en pain grillé qui se transforme dans une...
Donc là, nous sommes en 1908.
En 1909, ce morceau de pain grillé devient une biscotte. Et on a la chance de présenter la dernière étape où Marcel Proust note la mention de ces petites madeleines. Et on observe sur le manuscrit, ici sous nos yeux, que Marcel Proust met des majuscules, oui, la petite madeleine.
Et nous sommes à l'automne 1909, donc deux bonnes années pour passer du pain rassis à la petite madeleine.
Et en écoutant ça, on mesure le soin que Proust mettait à polir ses phrases, qui n'en restent pas moins souvent très longues, Bernard.
Bah oui, difficile de vous contredire. Pascal, la plus longue fait 931 mots. Et il est vrai, qu'on peut parfois s'ennuyer, il faut le dire. Mais on a le droit, c'est le conseil que je vous donne, on a le droit de sauter des pages de Proust pour mieux se précipiter sur les pépites que recèle son œuvre monumentale. Et puis, Proust, on l'oublie aussi, est très drôle. Son humour est ravageur quand il observe les travers de son milieu, celui des salons et de la grande bourgeoisie.
Et son empreinte est si forte qu'elle a laissé une trace sur la carte de France, Bernard ?
Eh bien, je vais vous expliquer ça. Vous savez qu'il baptise le village de son enfance Combray. Dans la réalité, il s'appelle Illier. La suite, c'est l'écrivain Pierre Lemaître, l'auteur d'Au revoir là-haut, grand fan de Proust, qui nous dit tout.
En fait, ce village s'appelle Illier. Nous sommes à quelques dizaines de kilomètres de Chartres, pour le situer, pour ceux qui nous écoutent. Et nous sommes dans un petit village de France, de taille moyenne, une bourgade assez sympathique, mais qui n'a rien d'exceptionnel. Eh bien, ce village qui s'appelle Illier va maintenant s'appeler, depuis 30 et 40 ans maintenant, Illier-Combray. C'est-à-dire qu'on a accolé au nom du village le nom de Combray. Ce qui veut dire que Combray...
Le nom que Proust donc donnait à ce village, là-dedans, à la recherche du temps perdu.
Tout à fait. C'est-à-dire qu'au fond, le nom réel et le nom de la fiction figure maintenant sur la plaque du village, et quand vous venez à la fois dans un lieu réel et dans un lieu imaginaire. Alors c'est le seul exemple où un lieu change de nom parce que la littérature est plus forte que la réalité.
Voilà, s'il fallait encore une preuve que Marcel Proust est un trésor de notre patrimoine et que se plonger dans son œuvre, eh bien ça en vaut la peine. La voici. Les 7 tomes à la recherche du temps perdu sont disponibles en poche chez Folio. On en trouve aussi au livre de poche qui est en train de rééditer ses volumes dans la recherche.
Et puis si vous n'avez pas lu Proust, au moins je suis persuadé que vous avez lu le questionnaire
le fameux questionnaire
de Proust qu'il avait inventé. C'est une manière, pourquoi pas, de rentrer dans son œuvre. Il est 12h59. Merci Bernard. Les infos dans une seconde.
RTL Midi.